Bonjour à tous les bien-aimés que je n'ai pas encore salués ce matin. Je vais donc continuer la série que je vais bientôt finir sur l'évangile de Jean, puisqu'il ne reste plus que 19, 20, 21. Oui. Avec aujourd'hui, ça fera 3 chapitres. Donc on arrive au bout. Et aujourd'hui, on va regarder le chapitre 19. Donc, Évangile de Jean, le chapitre 19. Un des arguments, à mes yeux, le plus convaincant de la vérité de la Bible tout entière, c'est la réalisation à la lettre des prophéties. C'est-à-dire cette faculté que Dieu a accordée à ses prophètes de prédire avec exactitude des événements futurs. Vous savez que le Seigneur Jésus, lui aussi, a prophétisé. Il y a eu beaucoup de paroles prophétiques. Je n'en citerai qu'une seule, qu'on trouve en Luc 22, 37. Le contexte de cette parole de Jésus, c'est son dernier entretien avec ses disciples, la veille de son arrestation. Je lirai les versets 35 à 38. Donc Luc 22. Luc 22, verset 35. Puis s'adressant à l'ensemble de ses disciples, il continua. « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac de voyage, ni sandales, avez-vous manqué de quoi que ce soit ?»«
De rien, » dirent-ils.
« Eh bien maintenant, » poursuivit-il, « si vous avez une bourse, prenez-la. De même, si vous avez un sac, prenez-le. Et si vous n'avez pas d'épée, vendez votre manteau pour en acheter une. » Car il est écrit, il a été mis au nombre des criminels. Et cette parole doit s'accomplir pour moi. Car tout ce qui a été écrit de moi va s'accomplir. Tout ce qui a été écrit de moi va s'accomplir. Ces paroles de Jésus sont étonnantes, n'est-ce pas, hein ? Il dit à ses disciples d'acheter des épées. Bon. D'ailleurs, ils s'en sont servis. Hein ? Il a été mis au nombre des criminels. En fait, Jésus citait là, dans cette parole, une parole du prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 12. Il a été mis au nombre des criminels. Donc c'était une prophétie qui avait été dite par un prophète hébreu 4 siècles avant. Même plus, oui, 6 siècles. Ou 7, 8. Voilà. Alors, lisons Jean 19 à partir du verset 16. Vous rappelez que c'était la fin de ma précédente prédication, que Pilate le leur livra pour qu'ils soient crucifiés. Ils s'emparèrent donc de Jésus. Celui-ci, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé lieu du crâne, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et deux autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne, celle de Jésus était au milieu. Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate. « Il ne faut pas mettre le roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répliqua, « Ce que j'ai écrit restera écrit. » Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun d'eux. Restait la tunique qui était sans couture, tissée tout d'une seule pièce, de haut en bas. Les soldats se dirent entre eux, « Au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura. » C'est ainsi que s'accomplit cette prophétie de l'Écriture. « Ils se sont partagés mes vêtements » et ils ont tiré ma tunique au sort. C'est exactement ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. En voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Mère, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit, pour que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Vous avez remarqué, « pour que l'Écriture soit accomplie. » Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Il pencha la tête et rendit l'esprit. Comme on était à la veille du sabbat, et de plus d'un sabbat particulièrement solennel, les chefs des Juifs voulaient éviter que les cadavres restent en croix durant la fête. Ils allèrent trouver Pilate pour lui demander de faire briser les jambes des suppliciés et de faire enlever les corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier des criminels crucifiés avec Jésus, puis à l'autre. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui rapporte ces faits, donc ces gens, les a vus de ses propres yeux et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité pour que vous aussi vous croyez. En effet, tout cela est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Écriture, aucun de ses os ne sera brisé. De plus, un autre texte déclare, ils tourneront leur regard vers celui qu'ils sont transpercés. Après ces événements, Joseph de la ville d'Arimathée alla demander à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Il était aussi disciple du Seigneur, mais il s'en cachait par peur des autorités religieuses. Pilate y consentit. Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. Nicodème vint également. C'était lui qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit. Il apporta environ 30 kilos d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge funéraire en y mettant les aromates selon les usages funéraires des Juifs. Non loin de l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin dans lequel se trouvait un tombeau neuf où personne n'avait encore été enseveli. Comme c'était pour les Juifs le soir de la préparation du sabbat, ils déposèrent Jésus dans cette tombe parce qu'elle était toute proche. Pilate a donc fini par céder aux revendications des Juifs et leur a livré Jésus pour qu'il soit crucifié. Les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, donnent quelques détails que Jean ne rapporte pas sur le chemin de Jésus au sortir du prétoire jusqu'à son lieu d'exécution. Notamment que, trop affaibli par les blessures infligées par les coups de fouet, il n'a pas pu porter sa croix seul et que les soldats romains ont contraint un passant de l'aider. Son nom nous est donné dans l'évangile de Luc, Simon de Cyrène, donc un ressortissant de l'actuelle Libye. Un hérétique du IIe siècle a prétendu que c'est cet homme qui a été crucifié à la place de Jésus. Mahomet s'est emparé de cette légende. Et jusqu'à maintenant, les musulmans croient que Jésus, le fils de Marie, comme ils l'appellent, n'a en réalité pas été crucifié, mais qu'un autre l'a été à sa place. Ironie de la folie des hommes à l'intelligence obscurcie, Mahomet a donc repris à son compte une hérésie chrétienne. Verset 18. C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et deux autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne. Celle de Jésus était au milieu. Les autres évangélistes précisent que les deux autres condamnés étaient des brigands. Réalisation frappante de la prophétie d'Ésaïe que Jésus a citée à ses disciples pour les prévenir de ce qu'il attendait. Il a été mis au nombre des criminels. Verset 19. Les quatre évangiles rapportent l'écriteau que Pilate fit clouer sur la croix de Jésus comme motif de sa condamnation. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. C'était la règle pour les condamnés par crucifixion de notifier ainsi pour les passants le motif de la condamnation du supplicié. Pilate aurait été bien en peine de trouver un motif de condamnation autre que celui-là, car il savait très bien que Jésus était innocent et que les Juifs le lui avaient livré par jalousie. Les chefs des Juifs ont voulu contester cette inscription. Nous l'avons lu. Mais Pilate, pour une fois, ne leur a pas cédé. Peut-être une petite revanche de sa part envers ceux qui l'ont honteusement manipulé jusqu'à lui faire prononcer une sentence de mort contre l'innocent. Mais aussi et surtout, un avertissement menaçant à quiconque oserait défier le pouvoir romain, car le lieu d'exécution était proche de la ville et beaucoup certainement ont pu lire cet écriteau. Chacun pouvait le lire dans une langue qu'il comprenait, en hébreu pour les juifs, en latin qui était la langue de l'armée romaine, et en grec qui était la langue universelle de l'époque. Ainsi, à son insu, Pilate a proclamé en quelque sorte la royauté de Jésus au monde entier. Ironie et souveraineté de Dieu. Les versets 23 et 24 décrivent ce que les soldats romains ont fait des vêtements de Jésus. C'était la coutume que les soldats ayant participé à l'exécution d'un condamné se partagent ses vêtements. Ce détail nous montre qu'ils étaient quatre. Ils n'ont pas partagé la tunique de Jésus parce qu'elle était sans couture et l'ont attribuée à l'un des quatre par tirage au sort. Jean relève ce détail en disant que c'est ainsi que s'est accomplie à la lettre la prophétie du roi David dans le psaume 22. Il se partage mes habits, il tire au sort ma tunique. C'est vraiment assez ahurissant ça. Qu'est-ce que David a pu penser quand il a écrit ça? Est-ce que ça lui est arrivé dans sa vie que ses ennemis se partagent ses vêtements, tirent au sort sur sa tunique? Je ne sais pas, en tout cas ce n'est pas rapporté dans la Bible, mais David l'a écrit. Les versets 25 à 27, les quatre évangiles mentionnent les noms des femmes qui sonnaient près de la croix de Jésus. Comme dans tout le reste de son évangile, Jean s'autodésigne comme le disciple que Jésus aimait. Certainement pas parce qu'il se considérait au-dessus de ses collègues, mais parce que l'amour de son maître était son plus beau titre. Ainsi, Jean est le seul qui mentionne que Jésus lui a confié sa mère. Marie était certainement veuve. Mais Jésus avait des frères et sœurs. Et parmi ses frères, il y avait aussi Jacques, qui deviendra plus tard le pilier de l'église de Jérusalem. Mais à ce moment-là encore, très probablement, il ne croyait pas en lui. Et puis, rappelons-nous cet épisode de la vie de Jésus. On vient lui dire que sa mère et ses frères désirent le voir. Il répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis, désignant ses disciples d'un geste de la main, il ajouta, « Ma mère et mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » C'est donc aux soins du disciple bien-aimé que Jésus a confié sa maman pour le reste de sa vie terrestre. Verset 28. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit, pour que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Alors il est certain que le supplice de la crucifixion devait générer une soif intense chez les malheureux qui le subissaient. Mais Jean précise que Jésus a prononcé cette parole afin que l'Écriture soit accomplie. Jésus cite là un autre psaume de David, 69, verset 22. « Pour étancher ma soif, il m'offre du vinaigre. » Là encore, qu'est-ce que David a dû penser quand il a écrit ça? Verset 30. « Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Il pencha la tête et rendit l'esprit. Cette expression « Tout est accompli » est le témoignage de notre Sauveur lui-même qu'il s'est complètement acquitté de la mission que le Père lui avait confiée. Il l'avait dit par anticipation dans sa prière du chapitre 17, lors de son dernier entretien avec ses disciples, au verset 4, « J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. » Le mot employé par Jean est mis dans la bouche de Jésus sous l'inspiration du Saint-Esprit et le verbe grec « téléoo » qui signifie « achever, menée à son accomplissement total. Et là, il est conjugué à un verbe grec qui s'appelle le parfait, un temps qui exprime une action terminée, mais qui a des conséquences permanentes. Cette merveilleuse précision de l'Écriture nous montre que l'œuvre de Jésus a été menée jusqu'au bout, qu'elle est complète et que ses conséquences sont éternelles. C'est la base même de la sécurité éternelle de notre salut. Personne ne peut la remettre en cause et personne ne peut y ajouter quoi que ce soit. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Littéralement, il renvoya l'esprit. Le verbe employé par Jean, c'est le verbe paradidomie, est à la voix active. Il renvoya l'esprit activement. Ce sont bien des hommes qui ont attaché Jésus à une croix, mais c'est lui qui a décidé du moment où il remettait son esprit au Père. Cela aussi, Jésus l'avait dit à ses disciples. Rappelez-vous en Jean 10, verset 18, « En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 46, Luc écrit « Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Là encore, c'est une citation du psaume 31, verset 6. Dans cette dernière parole de sa vie terrestre, Jésus accomplit encore une prophétie de l'Écriture. Et Luc parle d'un grand cri, ce qui est tout à fait insolite pour la dernière parole d'un mourant. C'est qu'en fait, c'est un cri de victoire. La victoire du prince de la vie sur le prince des ténèbres et ses démons. Les versets 31 à 37. Les autorités juives, voulant que les corps des suppliciés ne demeurent pas sur les croix pendant ce sabbat particulièrement solennel, parce que c'était la veille de la Pâque, font la demande à Pilate de provoquer leur décès en leur brisant les jambes. En effet, ce geste horrible avait l'avantage, si l'on peut dire, de raccourcir leur agonie du fait de l'hémorragie provoquée supplémentaire et de la suppression de l'appui sur leurs jambes, attend la mort par asphyxie. Les soldats brisent les jambes des deux co-suppliciés de Jésus, mais ne lui brisent pas les jambes car ils constatent qu'il est déjà mort. Et Jean relève de ce fait l'accomplissement de deux prophéties encore. Pas un des os de l'agneau pascal ne sera brisé, comme Dieu l'avait commandé par l'intermédiaire de Moïse à Aaron, on trouve ça en Exode 12, verset 46. Et au passage, on voit que Jean identifie Jésus à l'agneau pascal, comme Jean-Baptiste l'avait en son temps déclaré, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Un des soldats romains donne un coup de lance dans le côté de Jésus, probablement pour voir s'il est bien mort, s'il n'a aucune réaction. Jean, qui assistait à la scène, nous dit que du côté percé de Jésus, jaillit du sang et de l'eau. Il y voit l'accomplissement d'une prophétie du prophète Zacharie, chapitre 12, verset 10. « Alors ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils auront transpercé. » Certains ont vu dans le sang qui coule la vie offerte en sacrifice et dans l'eau la vie éternelle qui en découle. Les versets 38 à 42 nous décrivent la mise de Jésus dans un tombeau par d'éminents personnages. Joseph, de la ville d'Arimathée, une petite ville au nord-ouest de Jérusalem. Marc nous dit que c'était un membre éminent du Grand Conseil, donc du Sanhédrin, qui lui aussi vivait dans l'attente du royaume de Dieu. C'est écrit en Marc 15, verset 42. Jean nous dit qu'il était aussi disciple du Seigneur, mais sans cacher, par peur des Juifs. Là, il a bravé sa peur pour aller demander à Pilate le corps d'un condamné à mort. Et Nicodème aussi est là. Celui qui était allé voir Jésus de nuit, nous rappelle Jean, lui aussi était membre du Sanhédrin. C'était donc un collègue de Joseph d'Arimathée. Ces deux n'avaient pas eu le courage jusque-là d'affirmer leur foi en Jésus et de s'opposer à ceux de leurs collègues qui avaient voté la mort de Jésus. Mais maintenant, ils paraissent en pleine lumière. Et voilà ces deux notables qui prennent soin du corps de Jésus en le mettant dans un tombeau neuf où personne n'avait encore été mis et en l'enveloppant d'aromates selon la coutume juive. Avait-il entendu Jésus dire qu'il ressusciterait? Je ne sais pas. Que sont la prophétie du roi David, Dieu ne permettrait pas que son saint voie la corruption? Quelle n'a pas dû être leur surprise et leur joie en voyant quelques jours plus tard ce même corps parfaitement vivant? Paul nous dit en 1 Corinthiens 15, verset 6, que Jésus est apparu après sa résurrection à plus de 500 frères à la fois. On peut penser que Nicodème et Joseph d'Arimathée faisaient partie du nombre. Dans ce récit de la mort et de la mise au tombeau de Jésus, on voit que Jean a relevé soigneusement les événements qui étaient la réalisation de prophéties de l'Ancien Testament. Jean nous dit à la fin du chapitre suivant qu'il a rapporté ces choses afin que ses lecteurs, eux aussi, croient que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, ils possèdent la vie en son nom. C'est Jean 20, verset 31. Alors, à vous qui venez d'entendre ces mêmes paroles, je vous pose la question. Croyez-vous que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu? S'il y a des sceptiques parmi vous ou des adeptes d'une autre religion, n'êtes-vous pas frappé de voir avec quelle précision la vie et aussi la mort de Jésus ont accompli les prophéties qui avaient été annoncées sous la conduite du Saint-Esprit des années, voire des siècles auparavant? Peut-on rester sourd et aveugle à la voix et aux écrits des prophètes dont les prophéties se sont réalisées à la lettre? Aucune personne qui aura lu ou entendu ces textes ne pourra dire, lorsqu'elle paraîtra devant le tribunal de Christ, « Je ne savais pas ». Mais heureusement, il est encore temps d'entendre la voix des prophètes, de se repentir de s'être bouché les oreilles ou les yeux jusque-là, et de dire tout simplement « Seigneur, je me repens et je crois ». Alors, comme le dit Jean, en croyant, vous posséderez la vie au nom de Jésus. Et la vie dont parle Jean est une vie que nous expérimentons dès maintenant et qui ne s'arrêtera pas à notre mort physique. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Marthe, qui venait de perdre Lazare, son frère, Jean 11, verset 25. « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et Jésus a ajouté, en direction de Marthe, « Crois-tu cela ?» Alors mon frère, ma sœur en humanité, qui entend ce message aujourd'hui, crois-tu cela? C'est bien Jésus de Nazareth, fils de Dieu, qui a été crucifié pour tes péchés. Ce n'est ni Simon de Cyrène, ni un quelconque inconnu, comme Satan a voulu le faire croire à un obscur hérétique, mais aussi au prophète de la plus grande religion de ce monde après le christianisme, et qui emmène des millions de gens en enfer. Je propose d'observer un petit temps de silence pour que chacun s'interroge sur ce qu'il croit au fond de son cœur. C'est une question capitale qui engage l'avenir éternel de chacun.